avoir lieu ici. Et on commence par la première, avec un satellite, ça pollue quoi et ça pollue quand? Et puis sans plus de cérémonie, je vais demander à Erwan, Marie et Loïs de me rejoindre. On peut les applaudir, comme ça nous laisse un peu de temps pour nous installer. Alors, on a 1 heure ensemble sur un format que vous connaissez tous, puisque c'est ce qu'on appelle une table ronde. Il y a rarement de table à ce moment-là, mais le but du jeu, c'est d'avoir une discussion peut-être avec nos 3 intervenants et assez vite. Enfin, en tout cas, je vais essayer de garder un temps pour que la salle puisse intervenir. Donc, à la fois des questions, des remarques. N'hésitez pas à les noter en attendant. Et si vraiment elles vous brûlent la langue, on peut aussi faire une petite parenthèse à un moment. Mais le but du jeu, c'est plutôt d'attendre la fin de la discussion. Donc je vais présenter nos intervenants. Donc il y a Marie. Bonjour Marie.
Bonjour.
Marie, vous êtes chef du service structure thermique et matériaux au CNES. Nous avons Loïs qui est Loïs, pardon, expert indépendant et membre de l'asso Aérodécarbo. Et Erwan, Sustainability Transformation Leader à Thales Alenia Space. C'est bien ça?
Ou responsable de la transformation durable, ça marche aussi.
Ah, en français, on pouvait le faire. Je ne sais jamais si les titres, on peut les traduire ou pas. Moi, je voulais commencer par un point qu'on a un peu abordé déjà ce matin, mais il me semble important parce qu'en fait, sinon, la discussion manque de précision. C'est qu'est-ce qu'on entend par satellite? Alors, vous avez, je pense, tous eu le petit fascicule qui vous a été remis à l'accueil. On aura l'occasion d'en reparler, de l'amender, de le discuter. Mais j'aimerais bien vous entendre, en fait, sur. C'est quoi un satellite et quels sont les différents types de satellites pour qu'ensuite on puisse rentrer dans les discussions? Marie, peut-être?
Je veux bien, mais je pense qu'Erwan, à mon avis.
Ou Erwan, alors que vous.
Alors, j'y vais. Alors, sur les différents types de satellites, on pense bien entendu, on en a parlé pas mal ce matin, des différentes altitudes. Donc, vous connaissez tous les sigles, j'imagine là maintenant, LEO, MEO et GEO. On n'a pas trop parlé de la masse des satellites, donc ce qui distingue pas mal les satellites. Donc, on a parlé beaucoup de Starlink. Donc, je ne sais pas si vous savez combien de kilos fait un Starlink, un satellite Starlink. J'imagine pas mal de gens dans la salle le savent, c'est aux alentours de 300 kilos. Mais sur les satellites de télécom, il peut y avoir des tailles complètement différentes. Lionel Suchet a parlé ce matin de Connect VHTS. Donc, Connect VHTS, je ne sais pas si vous avez une idée du poids de Connect VHTS.
Quelqu'un sait? Combien ça pèse en kilos? Ah.
Donc 6 tonnes et demie. Ça fait 6 tonnes et demie, donc c'est quand même un gros bébé qui est 6 tonnes et demie, qui fait à peu près 7 mètres de haut. Donc déjà, juste si on considère les télécoms, en fait, il y a des tailles très différentes. Et là, je ne considère même pas effectivement les nanosatellites qui vont être potentiellement de quelques kilos. Donc ça fait déjà une gamme qui est assez large autour de ça. Sur ces satellites-là, ce qui est important aussi, c'est si on reste sur les télécoms, c'est qu'ils ne vont pas tous avoir la même capacité. Il y a eu pas mal de débats ce matin sur combien de satellites il faut, de combien on a besoin, et est-ce qu'en fait on en a besoin de suffisamment et que en fait pour le besoin donné, il n'est pas nécessaire d'en avoir davantage. Si on prend un satellite toujours Starlink, je reste sur Starlink parce qu'on en a pas mal parlé. Pareil, est-ce que vous savez combien de gigabits par seconde ça fait à peu près un Starlink? Donc 300 kilos. Ça va faire à peu près 15 gigabits par seconde. Connect VHTS, je reste sur cet exemple-là, 6 tonnes 5, donc là, ça va faire à peu près 500 gigabits par seconde. Donc juste pour donner des ordres de grandeur en tête, c'est important d'avoir ces ordres de grandeur en tête. Et ensuite, quand on va parler aussi des impacts, les impacts, il faut le ramener au service rendu. Et donc c'est important de savoir quel est le service rendu par les différents objets. Donc ça, c'est pour la partie télécom. Bien entendu, on peut avoir des satellites sur la partie observation, sur la partie navigation, qui sont les secteurs principaux. Voilà, pour donner un peu un état des lieux global. Et à noter qu'effectivement, et ça peut rentrer en ligne de compte dans leur empreinte, selon la mission, il va y avoir des contraintes différentes par type de satellite. Un satellite d'observation, vous le savez, doit avoir une stabilité mécanique pour regarder une zone de manière très précise, donc une stabilité mécanique très forte. Un satellite de navigation, lui, doit avoir une stabilité d'horloge très importante. Un satellite de télécom doit être capable de dissiper une grande énergie du fait du grand nombre d'amplificateurs. Donc chacun aussi a ses spécificités qui peuvent amener derrière des impacts différents. Donc c'est important de garder ça en tête aussi. Ce n'est pas un satellite, c'est une multitude de satellites différents avec des impacts différents.
Et ça, c'est pour la partie qui est en orbite, puisqu'un satellite, ça demande aussi finalement un système technique autour, à la fois pour le lancer, mais aussi pour l'utiliser finalement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a aussi encore un peu du mal à intégrer dans la réflexion de l'impact environnemental. Peut-être l'œil sur cette notion, quand on préparait la table ronde, on avait parlé un peu d'amont-aval, je pense qu'on en a parlé, enfin vous avez dû en entendre parler un peu ce matin, mais peut-être tu peux préciser un peu sur ce qu'on entend par amont-aval dans ce secteur-là.
Oui, alors on pourra préciser après, si vous le souhaitez, Marie et Erwan. Donc en amont, on peut considérer que c'est tout ce qui sert à fabriquer des satellites et à les envoyer dans l'espace. Donc c'est vraiment traditionnellement ce à quoi on pense quand on pense à l'industrie spatiale. Et ensuite, en aval, on va voir plus tout ce qui est ce qui va servir à utiliser les données et les technologies du secteur spatial. Donc tout ce qui va être la production, l'opération des terminaux utilisateurs pour la télécommunication, toute l'exploitation des données d'observation de la Terre, par exemple, ça aussi sera plutôt dans le secteur aval. Et donc là, je pense que quand on voit la discussion du CNES, par exemple, sur les efforts qui sont faits sur la quantification de l'impact du secteur, c'est principalement sur la partie amont. La partie aval, à ma connaissance, il y a encore peu d'études, mais peut-être que Erwan pourra compléter là-dessus.
Et en fait, du coup, ça pose quand même la question, puisqu'on voit bien que c'est un système technique complexe avec différentes phases et puis différentes pollutions, du coup, qui sont liées à ces différentes phases. On le voit dans le fascicule que vous avez entre vos mains. Ça pose la question, Marie, de qu'est-ce qu'on regarde finalement ? Qu'est-ce qu'on va aller regarder à l'avenir pour essayer de mieux mesurer et donc mieux monitorer la pollution générée par cette activité ?
Oui, alors on va dire que ce qui est le plus visible, c'est probablement l'opération de lancement, c'est ce qui est le plus médiatique. Donc celle-là, on la voit bien, c'est pas parce qu'on la voit bien qu'on la connaît bien en termes d'impact, c'est clair. On en parlait d'ailleurs un peu ce matin déjà, notamment l'impact en haute atmosphère par exemple, de la phase de montée des gaz de combustion, des phases de retombée des étages, et puis après bien évidemment les parties retombées des orbitations des satellites pour ceux qui le font. Tout ça va générer effectivement un certain nombre d'éléments, de particules, de potentielles recombinaisons. Tout ça c'est complètement aujourd'hui, on va dire, méconnu. Il y a pas mal de travaux de recherche qui se mettent en place pour avancer sur ces connaissances-là. Et donc pour cette phase donc, qui est très visible par ailleurs, on ne connaît quand même pas grand-chose. On parle de l'impact effectivement au lancement, à la retombée, à la rentrée. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a tous les impacts de ce qu'on appelle l'amont du lancement, c'est-à-dire que toute la partie finalement développement, production des systèmes, les systèmes vol, lanceurs, satellites, et aussi tous les systèmes d'accompagnement au sol. Donc là, si on parle d'un lanceur, par exemple, c'est tous les moyens sols d'une base, la base de lancement à Kourou, par exemple, tous les bâtiments, tous les réseaux d'énergie associés, mais également les stations radars qui vont suivre le lancement. Donc ça, voilà, il y a tout un système véritablement assez large, et sans parler aussi de toutes les phases un peu de bureau d'études et de développement de ces systèmes-là. Où là, c'est pareil, c'est assez mal dimensionné, j'allais dire mal défini, l'impact environnemental de finalement toute l'ingénierie qui est associée à ça, et avec bien évidemment derrière le numérique, mais aussi les déplacements, etc., etc. Donc ça, c'est voilà, on peut voir beaucoup de facettes et de biais, enfin de prismes sur lesquels on peut aborder le sujet, quoi.
À ce stade, je précise que la table ronde, ça pollue, donc on se concentre sur les effets négatifs, ça sert à faire des choses aussi, les satellites, je pense que vous êtes au courant, mais là on essaye de voir vraiment sur le cycle de vie, sur l'analyse du cycle de vie d'un satellite, et donc du coup ces différentes phases de la recherche et développement à sa fin de vie, les endroits où ça pollue, ce que ça provoque comme pollution, et comment on peut mesurer et donc mieux adresser cette pollution. Et d'ailleurs, dans nos échanges préparatoires, je me rappelle avoir eu que vous avez eu quelques réactions sur le graphique et le fascicule qui a été distribué. Je ne sais pas, Erwan, tu voulais peut-être préciser certains points de ce fascicule ou réouvrir la discussion sur certaines facettes de ce document ?
Oui, alors c'était notamment sur la partie aval, effectivement, qui a été soulignée par Loïs. Qui a un impact fort, qui peut avoir un impact même plus fort. Alors ça dépend si on prend les effets de haute altitude, on va y venir. Mais si on, oui, j'imagine, si on prend pas en compte les effets de haute altitude, la partie aval peut avoir un impact plus fort. Donc quand on dit effectivement la partie aval, ça peut être c'est les terminaux de télécom. Donc un terminal SATCOM, ça va consommer en moyenne 5 watts. 5 watts, ça peut paraître pas beaucoup. Sauf que c'est 5 watts en moyenne pendant 15 ans, 365 jours par an. Donc forcément, ça c'est un impact. Ça va dépendre du mix énergétique, ça dépend si ce terminal il est en France ou s'il est en Allemagne ou aux États-Unis. Mais ça, c'est un impact, plus la fabrication. Donc tout ça, on passe sur du mass market, c'est-à-dire qu'on passe sur des centaines de milliers d'équipements, voire des millions d'équipements. Et donc, ça va avoir un impact, comme le PC là, par exemple, a un impact donc de plusieurs centaines de kilos de CO2 au manufacturing, et ensuite l'utilisation, effectivement. Et sur les constellations, c'est encore pire. Un terminal Starlink, c'est 50 watts en moyenne. 50 watts. C'est pas rien. Tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. Et en permanence, ils traquent les satellites. Tout le temps. Donc 50 watts, si on prend la durée de vie des satellites Starlink sur 5 ans, même sur 5 ans, ça représente une consommation significative qui peut être potentiellement presque un ordre de grandeur au-delà de la partie amont. Sur la partie observation, c'est pareil. La partie observation, on stocke des images. Donc un satellite d'observation, il va redescendre par an des pétaoctets de données. Chaque image peut être utilisée plusieurs fois, stockée plusieurs fois. On sait ce que représente, on a parlé de l'impact de l'empreinte du numérique, on sait ce que représente stocker un gigaoctet de données pendant un an. C'est significatif. Et donc à la fin, là encore, on peut arriver à des chiffres très significatifs. Des centaines de kilotonnes de CO2 juste pour le stockage des données. Si on prend la navigation, c'est pareil. Galileo, c'est des milliards de chipsets derrière. Donc, bien entendu, il faut mettre ça en regard du service rendu. Là, je regarde uniquement le coût. Après, il faut regarder le bénéfice associé. Mais en termes de coût, il faut être conscient que aussi, 2 milliards, c'est 2 milliards de chipsets qui sont fabriqués. Avec un impact bien moindre que sur un SATCOM, parce que c'est intégré à un smartphone ou à un autre équipement, mais c'est un impact également. Donc c'était notamment par rapport à ça que je voulais revenir, sur l'impact de la partie aval, et ce qui veut dire qu'il faut travailler sur ces parties-là aussi. Donc c'est important de réduire l'impact des terminaux, mais il faut aussi réduire l'impact des satellites, pardon. Mais si on arrive à faire passer une consommation moyenne d'un terminal de 5 watts à 2 watts, en fait on aura gagné autant, voire plus.
Loïs, sur le document ou alors sur les pistes comme l'ouvrir One comme...
Oui, alors je vais faire une remarque générale d'abord pour poser le cadre et après on pourra éventuellement rentrer dans le détail de chaque sphère, là, chaque cercle, en fonction des différents impacts et différentes phases de vie. Bon, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est important de le dire, je pense. Le secteur spatial, au regard des sciences environnementales, il présente des particularités qui sont vraiment uniques. Donc on est le seul secteur qui va, par nature, envoyer des objets du sol jusqu'à l'orbite, et donc lors des phases de lancement, on va émettre dans toutes les couches de l'atmosphère. Et ça va avoir des conséquences très importantes, à la fois sur la complexité et la magnitude des impacts qui vont en résulter. Ensuite, une fois qu'on atteint l'orbite, eh bien, on va éventuellement venir polluer ce qu'on pourrait aussi considérer comme un environnement, hein, l'orbite, avec donc les débris spatiaux. Et là, effectivement, on est la seule industrie à le faire. Et donc là, on sort vraiment de la biosphère qui est normalement l'objet des sciences environnementales. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez exotique. Donc il y a la problématique de la pollution lumineuse dont on a parlé ce matin. Et ensuite, c'est pas terminé. Lorsque le satellite atteint la fin de sa mission, s'il est en orbite basse, il va re-rentrer dans l'atmosphère. Et là, il va émettre des particules métalliques dans les plus hautes couches de l'atmosphère. Donc encore une fois, on est la seule industrie à interagir avec cette couche-là. Et donc pour l'instant, on va le voir, il y a un gros point d'interrogation là-dessus. Donc voilà, ça veut dire les conséquences de ça, c'est que on va avoir des difficultés très spécifiques pour évaluer nos impacts, parce qu'il y a des inconnus dans la recherche, parce qu'il y a des inconnus dans les données qui sont disponibles, et donc voilà, il faut aussi poser des nouvelles bases méthodologiques pour prendre en compte ça. Donc sur le petit flyer là que vous avez développé, moi j'avais une remarque particulière à faire sur la partie lancement et rentrée atmosphérique. C'est un sujet qui est extrêmement complexe, donc je vais essayer de le vulgariser dans le temps le plus court possible. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, donc déjà, pour donner un ordre de grandeur, si on regarde le cycle de vie d'un lanceur spatial, et on met le lancement de côté, l'ordre de grandeur pour une fusée Ariane 6, ça va être 20 000 tonnes de CO2 équivalent. donc pour la production des structures, production des ergols, les opérations, tout ça. Donc pour donner un ordre de grandeur, un citoyen français, c'est de l'ordre de 10 tonnes de CO2 sur une année. Et un vol Paris-New York, si on prend l'ensemble de l'avion, c'est de l'ordre de quelques centaines de tonnes. Donc ça peut sembler faible, mais ça, encore une fois, c'est sans prendre en compte le lancement. Donc qu'est-ce qui se passe si on prend en compte le lancement ? Donc, la problématique, c'est que l'impact d'une substance ne va pas être la même en fonction de son altitude d'émission. Donc si j'émets une molécule ou une particule au niveau de la mer ou en altitude, ça, l'effet ne sera pas le même. Et donc on comprend qu'il y aura une problématique très spécifique au secteur spatial, étant donné qu'on va traverser toutes les couches et émettre dans toutes les couches. Donc en fait, en particulier, les fusées vont émettre des particules, donc de suie, principalement les hydrocarbures et d'alumine, donc ça c'est les boosters solides des fusées Ariane par exemple. Et en fait, ces particules vont s'accumuler dans la stratosphère. Donc, la raison, c'est qu'il y a des dynamiques de circulation d'air qui sont très particulières. Et donc, si j'y émets une particule, elle va y rester de l'ordre de quelques années, alors que si elle avait été émise au sol, ça aurait plutôt été quelques jours. Et donc là, on comprend que ces particules, elles vont avoir beaucoup plus de temps pour exercer leur pouvoir réchauffant sur donc, la stratosphère environnante. Donc, maintenant qu'on a compris le phénomène, quelques chiffres. Donc il y a une étude qui a estimé, très récente, hein, l'année dernière, qu'une particule de suie émise dans la stratosphère par les fusées, elle était 500 fois plus efficace à réchauffer l'atmosphère que s'il avait été émise au sol par le reste des activités humaines. Donc là, on comprend que même si le volume d'émissions lors du lancement est faible, même si on compare à d'autres industries comme l'aviation, où ils brûlent une quantité de carburant qui est beaucoup plus importante, eh bien l'impact peut quand même être significatif dans la mesure où on a des temps de résidence qui sont plus longs dans l'atmosphère. Donc il y a encore énormément d'incertitudes sur ces quantifications-là. Il y a des besoins de recherche très importants. Mais il y a du coup deux quantifications qui existent. Et pour donner vraiment un ordre de grandeur grossier, hein, on considère que l'industrie, donc tous les lancements qu'il y a au cours d'une année, ils réchauffent donc la stratosphère, la couche qui est au-dessus de notre couche, hein, la troposphère, ils réchauffent la stratosphère de l'ordre de 10% de l'effet réchauffant de l'aviation sur la troposphère, donc sur la couche d'en dessous. La difficulté, c'est que, donc déjà c'est significatif, si on se rappelle qu'on a une centaine de lancements par an, contre 35 millions de vols chaque année. La problématique, c'est qu'on ne sait pas vraiment quel est l'effet résultant in fine sur la troposphère, c'est ce qui nous intéresse, puisque c'est là qu'on vit. Le problème, c'est que les scientifiques sont prudents à l'heure actuelle, ils disent... Ça peut se traduire dans des zones de réchauffement local, de refroidissement local. Donc voilà, il faut être prudent, mais l'impact est potentiellement significatif. Donc pour terminer là-dessus, vraiment le message que je veux faire passer, c'est qu'à chaque fois que vous voyez un chiffre dans la presse sur l'impact des lancements, déjà il y a 99% de chances que ce soit faux, hein, comme disait Laurence pour les satellites. Et donc vraiment, regardez à chaque fois, qu'est-ce qui est pris en compte. Et si on ne parle pas d'effet en notre atmosphère, ça vaut rien. C'est nul.
Marie, sur ces zones d'ombre du cycle de vie et sur peut-être aussi le fait que on va peut-être arriver dans une phase où les choses vont se sédimenter et on va réussir à se mettre d'accord sur effectivement des choses à regarder spécifiquement, ou peut-être qu'il y a une phase nouvelle qui s'ouvre devant nous, pour une note d'espoir.
Oui, non, mais après, ce qu'on peut quand même constater, c'est que la prise de conscience est quand même de plus en plus rapide, que l'organisation de l'écosystème du spatial avance là-dessus aussi, qu'au niveau du milieu de la recherche, il y a des sujets de thèses, de post-doc qui se mettent en place et qui permettent de fédérer les agences, les labos et puis les industriels. Donc ça fait des ponts, donc il y a plein de ponts qui se créent. Donc il y a une certaine quand même dynamique qui existe là et qui monte quand même en puissance. Après, moi, ce que je peux te dire, c'est que malgré tout, même si je pense qu'on peut effectivement se faire des... C'est important d'avoir, de pas dire n'importe quoi, donc d'avoir des ordres de grandeur qui ont du sens. Cela étant dit, dès maintenant, on peut quand même constater qu'il y a un problème, hein, comme toute activité, on va dire, industrielle ou humaine. Ce qui est important aussi, c'est essayer de faire passer le message auprès de tous qu'on peut dès maintenant se mettre en branle pour essayer de limiter l'impact de nos activités, quelle que soit la phase dont on parlait tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment un gros sujet de sensibilisation de tous les acteurs, de toute la chaîne, avec de la compréhension des enjeux, ça c'est le minimum, mais ça reste encore à généraliser, on va dire, parce qu'on n'est pas mieux que le reste de la société humaine. Hein. Il y a les sceptiques, il y a ceux qui sont dans le déni, puis il y a ceux qui sont éco-anxieux, ceux qui sont déjà en train de remonter. Donc il y a tous ces gens-là déjà. Il faut qu'on sensibilise, il faut qu'on montre aussi qu'il y a des voies, et il y a des voies vraiment techniques, vraiment intéressantes, innovantes, etc., créatives, pour trouver des solutions et diminuer l'impact environnemental. Donc voilà, il y a des ordres de grandeur, il y a des chiffres, il faut qu'on sache. C'est important, surtout quand on est dans un monde d'ingénieurs et de techniciens. Ces chiffres-là sont généralement les choses sur lesquelles on s'accroche. Il ne faut pas s'accrocher pour ne rien faire, il faut s'accrocher justement pour se mettre en route et avancer justement dans les solutions. Quoi.
Et justement, si on avance gentiment dans les solutions, quand on regarde d'autres industries, on va parler... d'éco-conception, on va parler de politique d'achat, on va parler de choses comme ça qui vont restreindre, qui vont aussi ouvrir de nouveaux champs. Est-ce que c'est des choses que vous voyez arriver dans votre secteur? Comment vous voyez ça, Erwan, peut-être?
Bien entendu, sans surprise, c'est des choses qu'on met en place de manière assez active. Hein. Donc, les achats, pour nous, alors on n'a pas trop parlé effectivement de l'empreinte de la fabrication des satellites. Juste deux mots là-dessus. Effectivement, sur la fabrication des satellites, comme l'a dit Marie, il y a déjà une grosse part, c'est l'ingénierie en fait. C'est le jus de cerveau pour designer les satellites, parce que c'est des objets assez complexes avec une récurrence assez faible. Et donc, il y a beaucoup de travail qui est en amont, beaucoup de travail aussi pour les tests. Donc nous, une grosse partie de l'empreinte du manufacturing, c'est aussi nos salles blanches qui doivent tourner et donc qui doivent respecter un certain nombre de normes, tourner 24/7 pour garantir ces normes-là. Et c'est aussi les équipements. Alors sur les équipements que l'on fabrique nous ou que l'on achète, on a encore une part d'incertitude assez forte du fait que nous, on achète à quelqu'un qui lui-même achète à quelqu'un qui lui-même achète à quelqu'un, et on peut aller jusqu'à 4, 5, 6 rangs de fournisseurs. Donc c'est pas évident de prendre en compte l'ensemble des activités et les bases de données. On s'appuie, comme tout le monde, sur les bases de données existantes, que ce soit, il y avait l'ADEME, on parlait sur les bases de données ADEME ou d'autres bases de données, mais qui ne prennent pas en compte encore aujourd'hui, et ça c'est une amélioration, les spécificités du spatial. Le fait que oui, le niveau de test dans le spatial n'est pas le même, le fait qu'un exemple tout bête, quand on a fait un composant électronique, les puces, on va les trier pour s'assurer de leur performance, et donc oui, ça veut dire qu'il y a toute une partie qui est mise au rebut, et ça il faut le prendre en compte, et que je parlais aussi de l'ingénierie qui est mise en place. Donc, dans tous les cas, la partie achat est effectivement pour nous une part importante. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille avec nos fournisseurs là-dessus, qu'on comprenne où ils en sont, leur maturité. C'est des sujets qui ne sont pas faciles pour des gros groupes. Ça l'est encore moins quand il s'agit de PME, c'est clair. Ils n'ont pas forcément un responsable ESG à plein temps pour mettre en place toutes ces actions. Donc, c'est pas facile. Donc, c'est les accompagner là-dedans et se mettre d'accord sur des trajectoires de réduction. Ça, c'est un pan d'action qui est assez important. Bon, il faut le faire avec l'ensemble de la chaîne, sachant qu'une boîte comme la nôtre, c'est des milliers de fournisseurs. Ensuite, sur l'éco-design. Donc, on implémente l'éco-design, bien entendu. On déploie ça au niveau des activités d'ingénierie pour que ça devienne quelque chose qui soit... qu'un ingénieur il fasse aujourd'hui son budget de masse, son budget de puissance, et qu'en même temps, en fait, il fasse son budget carbone, par exemple, ou environnemental de manière plus large, et surtout qu'il l'utilise pour voir comment il peut le réduire. De la même manière qu'aujourd'hui, on essaie de réduire la masse depuis dans le spatial, mais on a toujours essayé de réduire la masse, parce que la masse, c'était ce qui était prépondérant. Donc, qu'on arrive à déployer ça, et il faut le faire au niveau équipement. Il faut le faire au niveau des process et au niveau système. Je parlais des terminaux tout à l'heure. Ce qui est important, c'est aussi réfléchir. Le premier axe, c'est de savoir si on a besoin de lancer 100 satellites, 50 ou 3000. Et ça, c'est le premier truc. Avant même de savoir si sur l'équipement, on va faire moins 5%. Donc c'est important de faire moins 5% sur l'équipement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais il faut aussi regarder les leviers qu'on a au niveau système et donc de voir sur minimiser la masse qu'on va lancer. Donc là, je rejoins le principe de précaution qu'il y a sur ces aspects de effet de haute altitude. et donc minimiser la masse lancée en jouant sur le nombre de satellites, les plans, la couverture de chacun des satellites, mais en prenant en compte aussi l'impact que ça peut avoir au niveau du sol. Si on fait un satellite qui est moins lourd, moins puissant, mais qu'en fait le terminal les consomme trois fois plus au sol, on a perdu. Donc il faut prendre ça en compte, et l'éco-design, il est aussi à ce niveau-là, au niveau du système.
Marie, chez vous, comment, enfin chez vous, j'entends au CNES, comment vous traitez ces questions-là, à la fois politique et achat d'un côté, et puis éco-design, quelle que soit la réalité derrière de l'autre.
Politique achat, il y a effectivement, c'est justement sous l'impulsion de la DDD avec Laurence, il y a une matrice de prescription d'achat durable qui a été mise en place au CNES, qui permet pour chaque typologie d'achat, puisque c'est quand même 80% de nos sources finalement, de typologie d'achat, d'avoir un certain nombre de critères à partager avec tous les salariés du CNES pour qu'ils soient...
Peut-être juste sur les 80% de vos sources, qu'est-ce que ça veut dire ?
D'émissions. On est une agence, donc on a une activité, on va dire, de bureau d'études, de fonction de transfert entre, on va dire, la recherche, l'innovation dans les PME et les industriels qui vont être amenés à développer les systèmes spatiaux. Donc, par nous-mêmes, on n'est pas industriel. Donc, par nous-mêmes, on n'a pas d'activité. On a assez peu, finalement, dans notre bilan GES, d'activité directement émettrice. Par contre, c'est reporté sur les achats. C'est pour ça qu'effectivement, un des leviers fondamentaux qu'on doit mettre en place, c'est cette politique achat. Et comme on a aussi un rôle, comme on est quand même assez au centre des acteurs du spatial à minima français, on se doit d'avoir ce rôle aussi à travers cette politique achat d'accompagnement à travers les différents contrats qu'on va pouvoir être amené à mener aussi bien sur la partie logistique que sur la partie contrat d'accompagnement de prestations techniques, si je vois large, et aussi tout ce qui est gestion des labos, etc. Voilà. On a toute une gamme d'achats, bien évidemment, assez classique d'une entité comme la nôtre, avec des prescriptions et des critères. Donc c'est une première façon de faire, avec un critère, on va dire, environnemental au-delà des critères un peu classiques qu'on peut avoir dans les politiques achats. C'est clair que c'est, moi je le vois comme une première étape de sensibilisation collective. Après c'est clair qu'il faut aller beaucoup plus loin et être probablement beaucoup plus ambitieux dans les demandes qu'on peut faire pour que toute cette chaîne contractuelle qu'on peut avoir nous, elle ait cette trajectoire justement. Donc c'est un début. Ça c'est pour la partie politique achat. Pour la partie, on va dire, projet, donc là, c'est là où on doit aussi, nous, être un peu, je pense, pilote, ou en tout cas, on doit accompagner, enclencher la dynamique d'aller vers une réflexion systématique sur l'éco-conception. On a un rôle d'essayer de fédérer les initiatives, de voir ce qui se fait droite à gauche, et nous-mêmes aussi de proposer des outils, peut-être des bases de données dont on parlait ce matin, le besoin d'avoir des données open source, on va dire des données libres, qu'on puisse alimenter chacun. Alors ça, c'est aujourd'hui, c'est quand même un vœu pieux, faut quand même être clair, entre le moment où on se dit qu'on va partager tout parce qu'il y a une urgence à le faire et le fait de le faire réellement avec des problématiques de données qui sont propriété industrielle, c'est là où il faut faire du lobbying et qu'on soit tous conscients dans toutes les entités qui participent à cet effort-là du besoin de mettre en commun les données, quoi. Donc là, pour l'instant, c'est clair que c'est un appel, mais on n'en est pas là. Ça va venir, parce que, comme je le disais, je pense qu'il y a quand même une bonne dynamique, donc ça progresse. En interne CNES, ensuite, il y a encore une fois, comme dans toute boîte, je pense, une sensibilisation, une formation actuellement aux stratégies d'éco-conception pour que ça devienne finalement une sorte de réflexe pour le tout bon ingénieur du spatial à intégrer dans ses projets dès le début.
Donc une brique un peu formation finalement.
Exactement, une brique formation et puis mes formations, mes applications, quoi, parce que entre la théorie et la pratique, c'est là où on va venir vraiment se coltiner les vrais problèmes et se poser les vraies questions. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera aussi à ouvrir un petit peu nos chakras, j'allais dire, et proposer peut-être d'autres solutions technologiques ou d'autres solutions de réflexion systémique, comme on le disait, que ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui sur les systèmes spatiaux, quoi. Donc c'est vraiment un appel un peu à l'innovation. Alors ça peut faire peur à beaucoup de gens quand même, parce que typiquement le spatial de demain n'aura rien à voir avec le spatial d'hier. Les produits de demain ne seront pas ceux d'hier. La fréquence peut-être de lancement ou d'utilisation de l'espace ne sera pas la même qu'hier. Donc il y a une sorte, beaucoup le voient comme une sorte d'âge doré, une page qui se ferme, mais je pense qu'il faut vraiment passer ce cap et montrer que là, pour le coup, il y a un champ des possibles qui est vraiment intéressant, où avec toute la technique qu'on a pu acquérir, la remettre en question, la remettre sur la table avec une façon de travailler différente et des solutions conceptuelles, technologiques ou même d'usage complètement différentes, quoi.
Oui, parce que les solutions qu'on peut aujourd'hui expérimenter pourront devenir une forme de norme demain et créer en fait un sillon, quoi. Loïs, un peu sur ces pistes un peu de... Loïs, pardon, je vais vraiment pas y arriver. Ouais, je suis désolé, pardon. Sur ces pistes de solutions un petit peu, alors Marie et Erwan ont parlé les politiques achats, éco-conception. Toi, depuis ton poste d'observation, si je peux me permettre, qu'est-ce que tu vois un peu émerger aujourd'hui? C'est quoi les choses qui titillent un peu ta curiosité? Comment tu vois ce secteur finalement adopter de nouvelles pratiques ou se transformer petit à petit, mais se transformer tout de même?
Alors, j'ai qu'à moitié un poste d'observation. Je suis aussi un peu, on va dire, dans les deux côtés de la barrière. Donc, d'abord, du point de vue, on va dire, observateur. C'est vrai qu'il y a trois ans, il n'y a pas si longtemps, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce qui était fait sur le sujet dans la recherche scientifique, déjà, il y avait très peu d'études qui parlaient de l'impact sur la biosphère. Il y avait énormément de choses de faites sur les débris spatiaux depuis longtemps. Donc là, je vois qu'il y a une accélération donc, du côté de la recherche. Il y a vraiment de plus en plus de choses qui se font. Donc il y a eu des validations indépendantes hein, par des équipes indépendantes d'études qui dataient, mais qui étaient les seules à étudier l'impact des lanceurs, par exemple. Il y a de plus en plus de recherches sur la rentrée atmosphérique. Il y a des tests qui se lancent, notamment en Europe. Hein, Marie en parlait. Je pense que le monde de la recherche a pris conscience qu'il y avait un vrai sujet, que c'était intéressant, qu'il pouvait avoir aussi des co-bénéfices avec d'autres domaines de recherche, comme la recherche sur le climat de manière générale. Et sinon, sur la prise de conscience générale dans le secteur, quand j'ai commencé vraiment, que je parlais de cette problématique des particules, personne ne connaissait, vraiment. Très rapidement, vraiment, en l'espace de 3 ans, du coup, là, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a eu un genre de point de bascule, que maintenant tout le monde en a au moins entendu parler. Après que on prenne acte et qu'on prenne les décisions en conséquence, ça on en est encore très très loin, mais au moins dans la connaissance de la problématique, j'ai l'impression que ça a évolué. Dans le positif, évidemment. Il y a dans l'industrie, du coup, de plus en plus d'entreprises qui mettent, qui font des analyses de cycle de vie, hein, tout simplement, qui essaient de récolter des données. Donc voilà, le premier levier de transformation, c'est déjà la quantification. Donc c'est un pas dans la bonne direction. Et du coup, du côté plutôt de mon entreprise, donc je suis aussi acteur, on va dire, de la transformation de l'intérieur. Donc c'est une entreprise qui développe un lanceur spatial. Et donc là, dès le début, en fait, c'est encore malheureusement unique dans l'industrie. Dès les phases de conception, en fait, on a fait une analyse de cycle de vie pour essayer d'estimer okay, c'est quoi l'impact des différentes phases de vie, avec forcément tous les manquements qui sont liés aux manquements qu'il y a dans la recherche, sur le lancement, etc. Mais déjà, ça permettait d'éclairer certaines décisions. Et ensuite, maintenant, on essaie de faire de l'éco-conception. Et donc, comme le décrivait Erwan, on apporte l'indicateur d'impact environnemental avec les autres indicateurs de performance traditionnels comme la masse, le coût, etc. Donc on est encore en train d'apprendre et on fait nos premiers essais en quelque sorte dans l'industrie. Mais bon, ça a le mérite d'exister. De manière générale, moi j'ai une vision un petit peu pessimiste sur la capacité de l'industrie à vraiment réduire ses impacts rapidement. Parce que comme je l'ai dit, du point de vue climat et ozone, donc impact atmosphérique, le déterminant principal, c'est qu'est-ce qu'on va émettre. Le déterminant de ce qu'on émet, c'est quel carburant on choisit. Et le problème, c'est que une fusée, on ne va pas changer son design du jour au lendemain. On ne fait pas des versions comme tous les ans, comme les iPhones. Vous allez me dire, ils ne changent pas trop le design des iPhones non plus. Peut-être qu'ils ajoutent, ils enlèvent un bouton. Je sais pas. En tout cas, ça veut dire que les décisions qu'on prend, de quel carburant on utilise, et qui ont été prises déjà pour l'essentiel des lanceurs qui existent, mais en fait, elles vont potentiellement nous emporter jusqu'en, je sais pas, 2040, des choses comme ça, parce que voilà, si on prend Ariane 5, elle a fonctionné pendant une vingtaine d'années. Voilà, donc il y a énormément d'inertie dans le secteur ou à la transformation à cause de ça. Et donc, j'anticipe peut-être des résistances de la part des industriels sur, on va pas changer notre carburant parce que ça veut dire qu'on doit changer complètement notre lanceur.
C'est à la fois ce qu'on appelle une dépendance de sentier, c'est-à-dire qu'en gros, on s'enferme dans un modèle qui nous permet et qui nous empêche, C'est sur une autre industrie, c'est ce qui fait qu'on a des claviers AZERTY et QWERTY qui sont complètement anti-ergonomiques, mais qui sont en fait liés à une fonctionnalité de la machine à écrire. Bref, en gros, c'est la dépendance des sentiers. Et en plus, l'industrie du spatial, c'est des temps de développement aussi. Des temps de développement et un coût qui fait que cette dépendance, elle est d'autant plus forte. Et d'où le fait que peut-être que le salut, si on parle de salut, mais en tout cas, peut-être que ça vient aussi de petites structures ou de façons de faire, peut-être qui ne sont pas forcément dans la grande institution et qui vont pouvoir avoir une marge de manœuvre. Je prêche pour ta chapelle, là. Vous, chez Thales Air One, vous avez... justement, parlons de petites structures et d'agilité, mais est-ce que vous avez des endroits où, justement, il y a un peu plus de... Alors, liberté, c'est un bien grand terme, mais en tout cas, de capacité à faire des choses un peu décalées par rapport à la façon de faire habituelle ou de... Pendant un temps, on parlait d'innovation, mais peut-être que ça va plus loin que ça, quoi, de se sortir d'une modalité pour que la finalité soit différente, quoi.
Déjà, enfin, pour avoir de l'impact, même avec les mêmes objets, comme je disais tout à l'heure, il y a cet aspect système qui est important. Déjà, avec ce qu'on a entre les mains, bien entendu, il y a de l'innovation pour voir comment on peut réduire. Ces innovations-là, elles ont peu de chances de réduire de 50% du jour au lendemain l'impact d'un objet. Peut-être les carburants, c'est un sujet différent, mais pour les satellites, ce n'est pas le cas. Donc nous, le grand levier, c'est vraiment savoir comment on utilise en fait la boîte à outils qu'on a déjà. Et donc, est-ce que, comme je disais, est-ce qu'on fait une constellation de 5000 satellites, de 200, ou est-ce qu'on utilise, par exemple, des géostationnaires ? Donc, l'impact d'un satellite géo va être moindre. Si on prend tout cumulé, alors, fais attention, effectivement, les chiffres sont très discutables, sur plein de... mais je me lance quand même. Un satellite géo va quand même avoir un impact moindre qu'un satellite en orbite basse, à ISO capacité. Alors déjà, il y a un phénomène simple, hein, c'est qu'un satellite en orbite basse, les trois quarts du temps, il survole des zones qui ne servent à rien. Les trois quarts du temps, il n'est pas lui, mais il est au-dessus des océans. Donc on envoie en orbite un objet qui marche 25% du temps. Donc il n'y a pas besoin de faire 5 ans de calcul pour se rendre compte que même toute chose égale par ailleurs, ce qui n'est pas le cas, mais toute chose égale par ailleurs, il y a forcément un delta d'impact à ISO service rendu entre les deux. Donc ça, c'est pour le géo. Après, on va me répondre, oui, la latence. On en a parlé beaucoup ce matin, effectivement, il peut avoir des besoins de latence. Il faut se poser la question, pour quel besoin ? Il n'y a pas besoin de latence pour tout, il peut avoir besoin de latence pour, effectivement, des transactions bancaires, ou pour mon fils qui joue à Fortnite, effectivement, s'il y a une latence à 400 millisecondes, il ne va pas être content. Mais ce n'est pas tous les besoins. Et donc c'est pour ça que je pense qu'une stratégie avec multi-orbite et donc avec à la fois des satellites géo qui vont servir un besoin donné, des satellites Léo qui peuvent compléter soit du fait de la couverture, soit du fait de la latence, pour moi est vraiment l'approche qu'on doit essayer d'adopter et d'utiliser ce levier système qui pourrait essayer de minimiser en fait ce qu'on va envoyer en orbite au strict besoin et revenir vraiment au besoin final.
Marie, sur cette conception en système et du coup sur la façon dont on peut optimiser ce qu'on envoie dans l'espace et ce qu'on développe ici pour l'utilisation.
Oui, alors je ne sais pas ce que je peux dire de plus que ce que vous avez dit, mais effectivement, c'est comme dans tous les secteurs, c'est ce que tu disais Erwan à l'instant, il faut se poser la question des usages, quoi. Donc là, nous, côté CNES en tant qu'agence spatiale, dont un de nos rôles, c'est de proposer la politique spatiale de la France au sein de l'Europe. Il faut forcément qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec le spatial de demain, quels sont effectivement les objectifs prioritaires. Donc là, nous, c'est clair, on a quand même un prisme climat, observation de la Terre, compréhension de la Terre, etc., pour mieux, on va dire, comprendre, mais au-delà de ça, peut-être aussi pour mieux surveiller les actions de réduction qu'on pourrait mettre sur Terre et puis monitorer, éventuellement réguler. Ça, c'est encore un truc peut-être qu'il faut développer, mais c'est vers ça qu'on tend. Après, sur la partie, effectivement, commerciale d'utilisation de l'espace, on peut proposer des choses, mais ça nous dépasse. On se retrouve en lien avec une politique économique d'un pays, voire d'un continent. Qu'est-ce qu'on veut faire effectivement comment est-ce qu'on veut prioriser l'utilisation de l'espace, tout simplement. Donc ça, c'est. Enfin, moi, je ne sais pas répondre à ça. J'ai des idées qui sont personnelles, mais c'est pas. il faut forcément en accord avec une stratégie très haut niveau qui est vraiment au niveau politique. et qui se doit aussi d'emporter l'acceptation sociale, au fait. Enfin, faut vraiment, on en parlait ce matin, je suis assez d'accord, je trouve qu'il y a très peu de discussions sur l'utilisation du spatial, à consulter les gens, qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Est-ce que la priorisation, c'est effectivement d'avoir, d'avoir une possibilité de jouer aux jeux vidéo ou de télécharger des super vidéos de chat ou autres depuis son RER, ou est-ce qu'on veut effectivement privilégier la connexion pour le boulot, pour pouvoir bosser depuis des territoires qui sont peut-être pas hyper urbains, etc. Voilà, il y a tout ça. C'est comment est-ce que le spatial peut accompagner les changements de modèle de vie aussi qu'on va devoir accompagner, quoi. Très clairement, c'est ça. Donc ouais, je ne réponds pas très très bien à la question, mais derrière ces usages, il y a forcément derrière des concepts de systèmes spatiaux qui seront à mettre en place, une organisation de l'industrie aussi. Et comment est-ce qu'on fait monter éventuellement des acteurs qui ont des bonnes idées, sans forcément multiplier aussi, tout en limitant l'impact sur les ressources et l'énergie, quoi. Donc comment mettre ensemble les bonnes idées en restant le plus sobre possible. Voilà, vous avez 2 heures.
Oui, peut-être juste pour compléter, ce qui est au-delà de, effectivement, pour un usage donné, réduire l'impact, je pense qu'il est important, c'est aussi se poser la question pour toutes les futures applications à venir de l'approche coût-bénéfice environnementale. Qu'est-ce que ça amène par rapport à qu'est-ce que ça coûte ? Alors, qu'est-ce que ça amène ? C'est très compliqué. C'est-à-dire, est-ce qu'une vidéo de chat, ça amène quelque chose ? Peut-être. C'est là où c'est très compliqué. À minima, c'est distinguer ce qu'amène l'utilisation finale. Donc, si on prend les télécoms, sur les utilisations finales, il peut y avoir des utilisations finales qui sont bénéfiques. Fracture numérique, je ne reviens pas sur le débat de la fracture numérique. Je ne rouvre pas. Non, je ne rouvre pas. Mais après, à l'inverse, il peut y avoir des applications qui sont négatives parce qu'elles vont encourager un usage carboné. Non, je ne vais pas donner d'exemple. Mais vous avez tous peut-être des exemples en tête, mais effectivement, si ça encourage un usage carboné, bah, c'est pire. Et après, se poser la question aussi si c'est mieux ou moins bien qu'une alternative existante. Est-ce que c'est mieux ou moins bien à iso-usage qu'une alternative terrestre ? Et la réponse est complexe, parce que c'est sûr que si c'est pour remplacer la fibre dans le 15e arrondissement, ça ne marche pas. Si c'est pour remplacer le déploiement de la fibre en Indonésie, en zone rurale, peut-être. Et donc là, la question est relativement compliquée à répondre. Mais c'est prendre en compte, en fait, même si la question est compliquée, essayer de le prendre en compte le plus tôt possible.
La question est complexe et surtout, elle est politique. Et je vous avais promis qu'on ouvrirait un peu la discussion. Et du coup, je me tourne un peu vers vous. Je ne sais pas si vous avez des questions suite aux échanges qu'on a eus. Il y a Toufik qui est au milieu de l'allée avec au moins un micro.
Je crois qu'il y a quelqu'un devant.
J'y arrive, Pierre. On va bientôt passer nos vacances ensemble. Bonjour. Très intéressant ce panel. J'avais une question ultra courte pour Loïs, parce qu'en fait, tout à l'heure, vous avez évoqué... Les lanceurs qui sont plus ou moins polluants, les choix d'ergols avec lesquels on est bloqué. J'aimerais juste, en 2 mots, si vous pouvez dire s'il y a des ergols qui sont mieux que d'autres. Ce serait intéressant d'en parler. Et après, j'avais une autre question qui est plus générale. C'est que donc, le déploiement d'infrastructures spatiales, en fait, c'est un pas de tir, un lanceur, un satellite dessus, un segment sol pour atterrir, pour accommoder tout ça. Et sur le lanceur, ce qui est toujours frappant, c'est que c'est quelques pourcentages, c'est de la matière, c'est les satellites et l'infrastructure. D'accord. Et tout le reste, c'est les ergols. Du coup, je reviens à ma question originale. Sur cet ensemble-là, où est-ce qu'on fait le plus gros des économies ? Est-ce que c'est en réduisant la masse des ergols, en changeant d'ergols, ou est-ce qu'en changeant le design des satellites, on a une action fondamentale sur le total ?
Merci, Pierre. Est-ce que pardon. Loïs, tu veux répondre maintenant ou je prends encore quelques questions, Edwin ?
Non, bah, on peut peut-être répondre maintenant.
Ok, je me balade.
Je réponds maintenant, tant mieux, parce que sinon j'aurais oublié. Donc sur la première question, alors on a une assez bonne connaissance de quels sont les ergols les moins bons et les meilleurs. Typiquement, j'ai dit les responsables de l'impact climatique des lanceurs, c'est en premier les suies, donc ils sont des agrégats d'hydrocarbures imbrûlés. Donc là, on va avoir le kérosène, donc par exemple le Falcon 9 fonctionne au kérosène, il y en a plein d'autres. On va avoir les fusées hybrides, donc je ne sais pas, je vais pas rentrer dans le détail technique, mais ça utilise en partie un fuel solide qui va émettre des particules. Donc encore une fois, particules, c'est pas bon. On va avoir ceux qui émettent les suies, on a aussi les hydrocarbures à chaîne plus courte qui vont en émettre moins, mais on ne sait pas encore quantifier, donc on ne sait pas encore dire combien. Mais ça, c'est plutôt le méthane, le propane. Donc là, avec les nouveaux lanceurs comme le Starship, d'autres lanceurs. Ensuite, il y a la propulsion solide, donc les boosters des fusées aériennes qui vont émettre des particules d'aluminium, donc qui vont s'oxyder dans l'air, donc c'est des particules d'alumine. Donc elles, c'est les deuxièmes contributrices à l'impact climatique des lanceurs. Et ensuite, on va avoir la vapeur d'eau, qui est émise par absolument tous les types de carburants, et qui a quand même un impact, mais qui est moindre par rapport à l'impact des particules. Donc là, on a finalement, dans les pires, on va dire, tout ce qui est propulsion solide, kérosène, fort émetteur de particules. Et dans les meilleurs, on a le méthane, car on émet un peu moins de particules, mais on en émet quand même. Et donc, a priori, on peut se dire que le mélange LOX, donc oxygène liquide, hydrogène liquide, n'émettant pas de particules, il devrait être bon. Mais il y a quand même la problématique de la vapeur d'eau. Et donc, tant qu'on n'a pas de mesure de quantification plus précise, on va dire que c'est pas clair par rapport au méthane, par exemple. Et voilà, on a déjà en fait identifié les. On a besoin de nouvelles technologies en fait pour réduire drastiquement l'impact des lanceurs. Donc c'est un peu à double tranchant ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. On n'a pas besoin de technologies magiques, mais par contre il y a une inertie qui fait que c'est possible qu'on fasse pas les bons choix d'ici demain matin. Quoi. Il y avait une deuxième question. Pardon, c'était. Ouais, donc si on veut réduire les émissions du coup atmosphériques, comment on fait pour optimiser le lanceur et du coup
sur le satellite, sur la structure du lanceur ou sur le système, comme disait
alors,
la voile, est-ce qu'on lance moins, comment est-ce qu'on a le maximum d'impact?
De toute façon, on lance moins déjà. Ça c'est le premier levier, c'est clair. Donc questionnement des usages évidemment. Ensuite, alors c'est une question difficile parce que vu que le satellite c'est celui qui reste le plus longtemps sur le lanceur, 1 kilo de gagné sur le satellite c'est un impact significatif sur combien quelle est la taille du lanceur et quelle est la quantité de carburant que j'ai. Maintenant, il y a aussi la structure du lanceur qui est plus lourde. Donc, si j'ai un matériau qui est un peu plus léger, bah, peut-être que je vais gagner. Donc, c'est très difficile aujourd'hui de répondre à cette question. Il y a plein d'autres. C'est une question qui ouvre à tiroir, comment dire, qui ouvre plein d'autres questions. Donc, voilà. Mais voilà, j'ai donné quelques éléments au moins.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques? Hop, il y a une main qui s'est levée là.
Oui, mais merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question pour revenir aux données. En fait, on a parlé du fait que fournir des données dans le secteur, c'est assez compliqué parce que confidentialité, accès à la chaîne de fabrication. Et pour moi, quand même, je voulais distinguer deux usages des données qui sont différents et qui, à mon avis, pourraient apporter... qui pourrait apporter des réponses différentes. C'est un usage déjà interne pour de l'éco-conception, de la compréhension, qui effectivement est très dépendante de questions de confidentialité d'entreprise. Mais il y a aussi les données à destination des usagers des satellites, donc tous les clients, et qui, à mon avis, pourraient amener à des données qui seraient quand même plus agrégées, plus anonymisées, plus confidentielles, enfin moins confidentielles justement, et qui aujourd'hui, je trouve, manquent pour beaucoup d'entreprises. Et du coup, ma question qui s'adresse peut-être plutôt à Marie, c'est dans quelle mesure justement une organisation comme le CNES, mais peut-être que c'en est une autre, je ne connais pas assez bien les organismes, mais dans quelle mesure le CNES pourrait agir comme tiers pour justement établir une ou plusieurs ACV et fournir des chiffres aux utilisateurs qui soient pouvoir public, entreprise et particulier sur ces sujets-là.
Peut-être en deux mots, si vous pouvez vous présenter, parce que vous avez l'air d'avoir une question précise. Et du coup,
je suis Étienne et j'ai travaillé sur les données dans le secteur du numérique. Donc la voilà, donnée m'intéresse grandement.
Merci beaucoup.
Ouais, donc là, on parle particulièrement des données, effectivement, pour les ACV. Oui, c'est forcément le rôle du CNES, en tout cas en France, et en lien avec d'autres agences, si on veut monter au niveau européen, d'essayer de structurer justement ces bases de données, leur alimentation, et de mettre en place idéalement le bon niveau d'échange qui respectera les problématiques de confidentialité qu'il peut y avoir chez les industriels, hein, éventuellement aussi dans les labos, parce qu'il peut y avoir aussi des confidentialités de ces côtés-là aussi. Donc, trouver le bon compromis et le bon niveau, et malgré tout, le bon niveau de base de données pour que les ACV aient un sens, quoi. Ensuite, après, ce qu'on peut être amené à faire, c'est aussi de remonter d'un cran un peu déjà pour transmettre les bonnes pratiques autour des ACV et éventuellement de proposer des outils, même peut-être simplifiés, mais qui permettent à chacun de monter en compétences. Je parle des différentes parties prenantes dans, dans le spatial, de monter en compétence sur les ACV avec un outil standardisé qui permette aussi du coup plus facilement de comparer les solutions en intra-entreprise, mais aussi en inter-entreprise, pourquoi pas, ou en inter-entité de manière générale, et pouvoir travailler à faire, peut-être aller vers de l'aide à la régulation, à l'arrêt de la standardisation derrière. Donc ça, c'est vraiment le rôle, c'est un des rôles du CNES, c'est sûr. Donc ça se met en place, hein. Il y a des coopérations, il y a déjà des liens forts avec l'ESA, il y a déjà des guides de bonne pratique qui existent. Vraiment, c'est vrai que la difficulté, c'est de réussir à embarquer tout le monde pour pouvoir alimenter ces bases de données aux justes besoins et réussir à respecter les contraintes et les prérogatives de chacun, quoi. Ça, c'est vraiment l'enjeu. Donc je suppose qu'on peut y arriver si collectivement on sent qu'il y a un besoin. Donc il faut aussi que dans chaque entité, il y ait cette mobilisation et qui vient du haut aussi. Il faut vraiment que finalement les dirigeants eux-mêmes soient persuadés qu'il faut vraiment aller là-bas, dans cette direction-là. Et ça ouvre forcément des pistes de coopération en étant capable de respecter les confidentialités au bon niveau, quoi.
Juste pour compléter, sur l'aspect transparence, en tout cas nous, en tant qu'industriels, on est à fond pour qu'il y ait vraiment un partage transparent des données et pour qu'on constitue des bases de données communes. Et ça, c'est des choses qu'on échange donc pour les nommer avec nos compétiteurs, avec Airbus. On est d'accord sur ce point qu'il faut qu'on arrive à, par exemple, des facteurs d'émission communs. C'est indispensable. Et pour le bien du secteur, et puis même d'un point de vue purement égoïste, si Airbus dit 10 et nous on dit 1, on a tous perdu. Donc juste égoïstement, tout ça sans intérêt à se mettre d'accord, et dans tous les cas, pour le bien du secteur, il faut absolument le faire. Donc il y a une volonté forte et de ne pas se faire arrêter effectivement par cet aspect confidentialité, et il y a des possibilités. Ça peut être par exemple, comme on fait dans le cadre de certaines études, d'avoir un organisme centralisé qui est le praticien de l'analyse de cycle de vie qui va récolter les données brutes et qui en fait ensuite va restituer des moyennes, des facteurs d'émission, et qui peuvent être utilisés par tout le monde. Et même si les données brutes, on ne veut pas forcément partager le détail de la donnée, ce qui est important, c'est partager le résultat, le facteur d'émission qui peut être utilisé par tout le monde derrière.
Je crois qu'il y avait une autre question. Ah ben, il y a deux autres questions. Oh là là, on est débordé. On a commencé en retard, Tofik. Hein.
Moi, c'était plus une question un peu de... C'est bien toutes ces analyses qui sont en cours, etc., mais est-ce qu'il faudrait les mettre en place avant une certaine date limite ? Et à quel horizon, en fait, on pourrait prévoir ces changements pour vraiment avoir un impact ? Parce que c'est vrai que là, il y a beaucoup d'idées, il y a de choses qu'on fait, mais est-ce qu'il ne faudrait pas se fixer une date, en réalité ?
Je ne sais pas. Moi, je pense que la date qu'on a tous, c'est la neutralité carbone en 2050. Après, plus précisément, comment est-ce que ça se décline en projet ? Un peu comme le disait Loïs, moi, je suis d'accord, le petit côté pessimiste de Loïs, c'est genre on est quand même bien à la bourre et on est en train de prendre les mauvais choix pour les systèmes spatiaux de demain. C'est une bonne question, effectivement. Enfin, si je regarde le lancement, très concrètement, le secteur du lancement, on a une multitude d'initiatives qui existent aujourd'hui. On les voit en France, on les voit en Europe, on les voit partout. C'est sûr qu'on a du mal à croire que... de multiplier le nombre de lancements demain, ça soit la bonne solution, on est bien d'accord. Donc on ne sait pas trop, en voyant ça de loin, on se demande à quoi tout ça rime. Ce qu'on peut imaginer en étant hyper positif, c'est que toutes ces initiatives-là vont créer de la compétence, de l'innovation, de la créativité, qu'on pourra mettre au service de systèmes aux justes besoins de demain avec les meilleures idées. C'est comme ça qu'on peut le dire, quoi. Donc si on regarde d'un côté positif, on va dire que là, il y a quand même des grandes avancées dans la prise de conscience, dans l'élaboration de systèmes spatiaux qui seraient plus soutenables, dans le juste besoin, etc. etc. Espérons que toutes les initiatives aujourd'hui, l'argent public dépensé là-dedans, servent à ça, servent à construire ces futurs systèmes spatiaux, quoi. Mais moi, pour ma part, je pense qu'on est à la bourre, quoi, mais comme dans tout domaine, en fait.
Oui, je pense qu'effectivement, la réponse, c'est hier. Hein. De toute façon, forcément. Donc, du coup, dès qu'on peut faire quelque chose, il faut qu'on le fasse. Et donc, concrètement, même sur les programmes qui sont lancés. Donc, un exemple clé va être c'est Iris Carré. Iris Carré doit être exemplaire par rapport à ça. Prendre en compte l'impact environnemental. Et justement, que ce soit pas, on l'a mentionné ce matin, que ce soit pas, Iris Carré va pas être, je l'espère, mais aujourd'hui c'est pas parti pour, une constellation de 5000 satellites. Donc c'est important. Et donc ça, c'est un exemple concret où sur un projet qui va se faire, vu qu'il y a la volonté politique, de prendre en compte ce sujet-là dès le début, dès la phase de amont de design.
On va prendre votre question. Ouais.
Non, c'est pas une question, c'est des compléments. Laurence, directrice développement durable au CNES. On n'est pas dans les yaka faucons. Hein. On a quand même déjà bien avancé un certain nombre de choses pour répondre aux questions précédentes sur les analyses de cycle de vie. On est donc en travail actuellement depuis plusieurs mois déjà avec nos primes, hein, puisqu'on est avec TAS, avec Airbus, sur un logiciel ouvert d'analyse d'empreinte environnementale qui en est sa version 7, qui est ouvert et sur lequel on travaille déjà. On a complété des bases de données de facteurs d'émission. Et on va continuer à les compléter, puisque c'est notre rôle, comme le disait Marie. Donc on continue à travailler, à enrichir ces bases qui sont extrêmement importantes, qui sont en back-office de Oasis, donc cette analyse d'empreinte, qui fonctionne pour l'instant sur les segments bord, sur la partie bord. On travaille à l'intégration du segment sol et du segment lanceur dans ces analyses du cycle de vie. Tout ça, ce sera fait fin 2024. Déjà, au CNES, on s'est engagé à faire l'ensemble des analyses empreintes environnementales pour tous les nouveaux projets à partir de 2024. Donc les choses sont quand même déjà vachement enclenchées. Ok, on est en retard par rapport à tout le monde, par rapport au reste de la planète, et la COP28 va démarrer, on est en retard. Mais enfin, on fait quand même beaucoup de choses. On a revu intégralement l'ensemble de notre politique achat. On en parlait tout à l'heure. C'est 80% de notre BGS. Aujourd'hui, la totalité de nos... On a à peu près 1 milliard d'achats par an au CNES. Sur les 1 milliard d'achats par an, aujourd'hui, on a une politique achat entièrement revu sur ces critères ESG équivalent entre 10 et 20%, ça peut aller jusqu'à 20% de la note finale. Donc non, on n'est pas en train de se dire du yaka faucon, ok ça va pas assez vite, mais enfin quand même. Et dernière chose, nous sommes responsables de la base spatiale. La base spatiale, elle sera 90% ENR en 2030, même avant. Hein, je dis 2030 parce que je veux faire un peu gaffe si jamais ça... Mais 90% ENR en 2030. On sera 100% ENR bien avant 2050, bien avant. Donc on développe du photovoltaïque, on lance un énorme programme de production d'hydrogène vert avec le projet Iguane dont a parlé ce matin l'ADEME. On va lancer aussi une partie production d'ailleurs de la trigénération électrique chaud-froid à partir de biomasse. Tout ça c'est pour 2027. Donc ça va, voilà, la transformation elle est extrêmement maintenant bien lancée et rapide.
Merci. Encore une, Toufik ?
Mini, puisqu'on est...
Je vais très vite. Dans le numérique, on utilise la notion de sac à dos écologique, le MIPS en anglais, pour quantifier la matière première qu'il a fallu mobiliser pour fabriquer un équipement. Donc, par exemple, une tonne de voiture, il a fallu 50 tonnes de matière première. Une puce électronique, c'est un ratio autour de 16 000. Bon, c'est des chiffres qui datent un peu. Pour un satellite, ça donne quoi ? Et quelle matière première critique vous surveillez particulièrement ?
Ça va être la question facile pour moi. Et ben malheureusement, je ne sais pas répondre à cette question, mais j'aimerais bien savoir y répondre. Donc ça, c'est les choses qu'on veut faire, mais en toute humilité, on n'a pas encore la réponse à cette question. De savoir, on sait combien donc la répartition en type de matériaux sur un satellite. Mais si on s'arrête là, on va pas très loin, parce que même, j'ai dit, le plus gros satellite, 6 tonnes et demie, bon, c'est quelques SUV. Donc si on s'arrête là, c'est pas, on va dire, ah oui, c'est pas tant que ça, mais c'est bien plus compliqué que ça. Et donc c'est pour ça que cet exercice-là, on n'a pas encore les données, et c'est des choses qu'on veut faire. Mais malheureusement, par contre, on veut bien de l'aide pour le faire. voilà. Et donc sur les matériaux, oui, il y a eu un certain nombre d'analyses qui ont été faites sur les matériaux critiques. Des matériaux notamment, alors sur les panneaux solaires qui sont montés, sur le germanium par exemple. Ça, c'est des choses qui ont été très bien résumées dans les études de l'Union européenne sur le sujet, hein, sur les critical raw materials, dans le cadre du Critical Raw Material Act, où il y a une identification en fait, des matériaux qui sont critiques. Donc, l'exemple du germanium, par exemple.
J'ai un ordre de grandeur pour les lanceurs, moi, sur alors, pour les satellites, je sais absolument où on va
faire apparaître nul.
Alors, vous appelez ça le sac à dos écologique, c'est ça ?
J'ai pas bien entendu en fait.
Ouais, moi j'ai pas la ref. Hein.
Excusez-moi, c'est quoi le terme exact ? On a mal entendu.
Le MIPS.
Le MIPS.
Pourquoi j'ai entendu sac à dos ?
Ah oui, c'est le sac à dos écologique.
Ah ok. Du coup, j'ai pas trop l'image perso, mais. Dans l'industrie aéronautique spatiale, on utilise le terme de buy-to-fly ratio. Donc combien de masse on a acheté versus combien on va effectivement voler. Et l'ordre de grandeur, je sais que c'est souvent 10, on va jusqu'à 10 pour les lanceurs.
Mais là, ça va plus loin. C'est vraiment la matière première qu'on a brassée en termes de minerai.
Alors là, l'extraction, je ne sais pas.
Bon, c'est bon, alors.
Je crois qu'on prend encore une question. Non, on arrête tout. On arrête tout. On va enchaîner. Merci à vous trois, d'abord. Merci beaucoup à tous les trois. C'était passionnant. Et je crois que vous pouvez disposer.
Ah non, 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 non.
Ah non, on reste là.
Non. Étant représentant de la planète Terre, j'ai besoin de mes 4 satellites.
Évidemment.
Non, mais tous les satellites ne sont pas embêtants. La Lune, par exemple. J'ai bon, hein. Je suis content. Bon, alors, qui va me donner ce mot? Oui, je me présente, hein. Je suis le meilleur improvisateur de la Terre. Voilà. Pas encore dans l'espace pour des raisons que j'expliquais. Il fallait être là ce matin. Du coup, j'aurais besoin d'un mot pour amuser la galerie. Non pas qu'on ne se soit pas amusé. Hein. Moi aussi, j'ai eu des sacs à dos, mais il n'y avait pas de combustible dedans. Hein. Petit malin, l'a vu, c'est lui. Alors, du coup, un mot au hasard?
Incertitude.
Ah, c'est bien ça, l'incertitude. Hein. L'avenir est incertain avec vous. Hein. Avant, je regardais la Voie lactée en me délectant à l'idée de pouvoir un jour y aller. Là, maintenant, je suis en train de me demander si la capsule sera assez grande pour pouvoir m'y emmener. Incertitude. Incertain comme le destin que l'on donnerait à l'espace. L'homme est capable d'influer sur le destin de l'espace. Vous voyez ça, vous? Extraordinaire. Donc, incertain. Incertain, mais plein d'incertitudes. On pourra peut-être certainement essayer de combler les incertitudes par quoi? Par quoi? Du vide et de la poussière de lune? Non. Peut-être par une volonté d'aller au-delà de ces incertitudes, de s'allier, d'arrêter d'avoir des propos cosmiques, excusez-moi le jeu de mots, mais c'est un peu vrai, pour pouvoir parler de tout et de rien et de peut-être pas avancer, si ce n'est peut-être sur les statistiques que nous aurons après le lancer. Car au risque de vous avoir taquiné, on y est, c'est maintenant que ça se passe. Le lancement, c'est là, c'est maintenant. Alors on ne peut pas maintenant avoir des estimations de ce qui va se passer après le lancement, même si normalement le calcul doit arriver avant le lancement, je suis d'accord, c'est pour ça qu'il sourit. Mais les physiciens qui envoient des fusées, visiblement, sont prêts à partir avec les fusées qu'ils envoient, pour ne pas rester sur Terre avec nous, à réfléchir à comment l'écologie les sauvera. Oui, parce que je voulais en arriver là. C'est l'écologie qui nous sauvera de nos incertitudes. Et là, je suis certain de ça, moi. Oui. Voilà, je vais me rasseoir, parce qu'on n'a pas trop le temps.
Bravo, bravo.
Eh bien, je pense qu'on peut tous vous applaudir encore une fois. Merci beaucoup.